Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Maïlys André, réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Dalia. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Alors si la révolte des Gilets jaunes a mis un coup d'arrêt aux velléités réformatrices d'Emmanuel Macron sur le plan national, elle a également largement entamé son aura sur la scène internationale et en particulier sur la scène européenne. En effet, de l'Allemagne à l'Italie, l'image du président français était largement écornée. Ses partenaires le critiquant à la fois pour son manque de réactivité, son recul aussi sur la taxe carbone, mais aussi sur les concessions finalement accordées qui entraîneront probablement un dérapage budgétaire et donc le creusement du déficit sur lequel il était très attendu. Nous allons nous demander ce qu'il reste aujourd'hui de ce chef de l'État, de son crédit pour entraîner l'Europe dans un processus de relance pourtant bien nécessaire à quelques mois des élections européennes. Que reste-t-il de l'influence du président français? Peut-il encore porter le costume du responsable progressiste, écologiste, internationaliste tel qu'il l'a fait jusqu'ici? Les Gilets jaunes ont-ils compromis les ambitions européennes de Macron? C'est notre sujet ce matin pour l'évoquer. Deux invités. D'abord Clémentine Forissier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, rédactrice en chef de Contexte, journal des politiques françaises et européennes. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, président vous du mouvement européen France. Avant d'évoquer toutes ces questions, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Mauritanie.
Tout ça, c'est la frontière malienne. Il n'y a pas de balise qui limite la ligne de la frontière, pas d'arbres, un terrain dégarni de toute végétation, où la vie pratiquement là-dessus est impossible. La menace, c'est toujours les groupes puisqu'ils djihadistes de l'autre côté, les groupes armés, je veux dire. Pour nous, les risques zéro n'existent pas. Il faut toujours s'attendre à n'importe quel moment à être attaqué d'une manière ou d'une autre.
Voilà, le colonel Sidi Ahmed Oulmahmid, chef du bataillon mauritanien du G5 Sahel. C'est vous qui avez recueilli son témoignage. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, journaliste au service international de Radio France. Alors vous êtes rendu en Mauritanie il y a une vingtaine de jours, en particulier à cette frontière avec le Mali, dans ce qu'on appelle la zone rouge. On va y venir tout de suite. Vous avez tenté de comprendre un peu où on en est de cette lutte contre les groupes djihadistes. Rappelons quand même qu'il y a plusieurs forces militaires qui aujourd'hui sont engagées dans cette lutte. D'abord les soldats français de l'opération Barkhane, mais il y a aussi des casques bleus de la MINUSMA. Il y a aussi les forces du G5 Sahel, cette coopération régionale créée en février 2014 avec la Mauritanie donc, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et puis le Tchad. Vous êtes rendu donc sur place, sur cette zone rouge, à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Quelle est la situation sur place? Quel pouvoir de nuisance pour ces groupes? Et on va essayer de voir aussi qui ils sont, Claude Guibal.
Alors en fait, quand on est côté mauritanien, on est donc face à ce Mali en ébullition, alors que la Mauritanie, qui est un des premiers pays du Sahel à être frappé par le terrorisme djihadiste au début des années 2000, alors je ne vais pas dire qu'elle a réglé son problème, mais arrive à le contenir, puisqu'il n'y a pas eu d'attentat en Mauritanie depuis 2009-2010, suite à tout un tas de choses, notamment la réorganisation des forces armées. Et on est sur cette frontière, et cette frontière, elle ne ressemble, vous l'entendez dans ce que vient de dire le colonel, c'est pas une frontière, c'est du sable, on est dans un désert. Essayez de vous imaginer toute cette zone-là, on est à 40 heures de piste de Nouakchott, de la capitale. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, on est au milieu du désert, accès simplement qu'avec des 4x4 sur quelques pistes ou des dromadaires. Et ce qu'il nous dit le colonel, c'est que voilà, le Mali, on ne sait pas où il commence, il est à quelques mètres, quelques kilomètres devant nous. C'est une zone où il y a très peu d'habitations, ce sont des zones qui sont sur des anciennes routes caravanières, donc c'est des zones de trafic, traditionnellement de trafic, quelle qu'elle soit, et des zones où l'État n'est plus. Et en face, ce qu'on a, quand on est là où il nous parle, en fait, on est à Nbeket Lawash, qui est donc pile sur la frontière mauritano-malienne. En face, la menace principale, outre les narcotrafiquants et les trafiquants en tout genre, c'est Acmi, qui est encore présent dans les environs de Tombouctou. Et puis, à 70 km un peu plus au sud, il y a la forêt de Ouagadou, dans laquelle se trouve un certain nombre de djihadistes, notamment ceux de la Katiba du Massina, qui était dirigé par Amadou Koufa, dont la mort a été annoncée précisément
fin novembre,
quand j'étais là-bas.
Mais alors justement sur ces groupes djihadistes, parce que il y a un certain nombre de groupes justement qui se sont rassemblés sous la bannière d'une entité qu'on a baptisée Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Mm-hmm. C'est une organisation qui a été formée en 2017. C'est la fusion de Ansar Dine, d'Akmi et puis de plusieurs Katibas. De plusieurs katibas de la région. C'est quoi l'état de ces forces aujourd'hui? À combien on estime le nombre de combattants et est-ce qu'on parvient tant bien que mal à les contenir?
C'est difficile. Pour moi, c'est difficile de vous répondre exactement. Mais ces djihadistes qui étaient au nord Mali, qui ont été chassés par l'opération Serval puis Barkhane, se sont justement repliés. Aujourd'hui, sont en train de reprendre en puissance. Alors non plus dans le nord du Mali, mais dans le centre Mali précisément, dans cette zone autour de Mopti. La forêt d'Ouagadou et compagnie, avec la montée en puissance de nouvelles revendications quelque part qui se sont greffées sur la cause djihadiste, comme celle des Peuls, et c'est pour ça que la Katiba du Massina, qui était donc dirigée par Amadou Koufa, est en soi un facteur plus récent que Akmi, par exemple, ou Al-Morabitoun, est intéressante parce que ce que la Katiba du Massina appelle, c'est appel à la rébellion des Peuls. Et les Peuls, ils ne sont pas simplement au Mali. Les Peuls, vous en retrouvez dans toute la région. Ça descend bien plus au sud. Et on voit vraiment là-dessus comment les revendications des inégalités communautaires, les rivalités interethniques, les rapports au pouvoir central viennent se greffer sur la cause djihadiste.
Ouais, donc on est bien au-delà de la question du
on est bien au-delà de la question d'une idéologie. Tout à fait.
La semaine dernière, Claude Guibal s'est tenu le premier sommet extraordinaire du G5 Sahel à Nouakchott. Il y avait beaucoup d'attentes concernant cette réunion et notamment des attentes sur les financements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on attendait et ce qu'on a eu précisément? Est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on attendait?
Oui, en fait, c'est même au-delà de ce qui était attendu, puisque les sommes, je crois, c'est... Alors attendez, je vérifie. C'est 2,4 milliards d'euros.
C'est un tiers de plus que les objectifs initiaux.
C'est-à-dire qu'on a bien compris, en tout cas les pays du G5 Sahel ont eux-mêmes compris ça, c'est que la sécurisation, les aspects sécuritaires avaient finalement pris le pas sur les aspects du développement. Or, dans ces régions, et quand vous y allez, vous comprenez vraiment en quoi les deux sont profondément liés, avec toutes les dérives perverses que ça peut avoir, parce que c'est une question qui agite les ONG, les acteurs du développement depuis des années, de corréler systématiquement maintenant aspect militaire, aspect sécuritaire et aspect de développement dans certaines zones. Ça pose effectivement des problèmes. Après, quand vous vous retrouvez là, je vais vous donner des exemples en quoi c'est important. Je vous ai dit, dans une zone désertique. Je vais vous prendre l'exemple de ce petit village où je me suis rendu, un village qui s'appelle Wadi Initi. Vous êtes au milieu de nulle part, vous voyez juste quelques cases de boue séchée, et ce village, il est situé au pied d'un contrefort montagneux, enfin d'une petite colline, qui donne sur un plateau désertique, qui donne sur le Mali. Ce village, juste en face de ce village, il y a une toute petite passe qui est un des très rares endroits où un véhicule peut passer depuis le Mali, et puis il y a quelques habitants en bas. Il n'y a rien d'autre. Il y a quelques années, un véhicule piégé, kamikaze, est passé par là pour mener une attaque, donc venant du Mali, sur une caserne en Mauritanie. Et ce sont les habitants du village qui ont donné l'alerte. Il n'y a pas de couverture téléphonique là-bas, il n'y a rien. Pour aller donner l'alerte, il faut vraiment en avoir envie, d'une part.
Donc il faut donner l'envie.
Il faut se jeter sur un chameau, aller téléphoner là où vous pouvez. Et puis il faut donc se sentir concerné par ça, parce que vous êtes très très loin de Nouakchott, votre loyauté, elle va à votre tribu. Votre tribu, elle ne s'arrête pas à la frontière. Elle s'étend des deux côtés de la frontière. Donc, pour aller en référer à l'armée, il faut que vous sentiez que l'État fait quelque chose pour vous. Or, là-bas, il n'y a plus rien. Il y a juste une petite école coranique. Donc, si vous voulez que les enfants du village puissent aller à l'école, si vous voulez éviter l'exode qui ferait que cet endroit-là se vide de ses habitants et où donc ça devient effectivement une zone grise où peut prospérer toutes les activités illégales, etc., il faut donner aux gens les moyens de rester là.
Donc, on leur donne les moyens.
Alors, c'est là où ces projets de développement se mettent en place. Et il y a notamment ces projets qui ont été lancés par le Fonds européen d'appui à la Mauritanie, où on va creuser des forages. Regardez, par exemple, on parlait de Nbeket Lawash, donc cette toute petite, là où se trouve pour l'instant le bataillon du mauritanien du G5 Sahel sur la frontière. Il y a quelques habitations. Vous avez là 400 militaires, mais à terme, il y en aura 600 ou 800 qui vont arriver. Si les militaires se servent sur le forage de la population, le forage d'eau dans une zone désertique, vous comprenez que la population ne va pas accueillir de façon favorable les militaires. Donc c'est pour ça que cette approche, ce qu'on vous explique, c'est que cette approche, elle est duale systématiquement. Civils et militaires, on construit un hôpital mobile pour les militaires, il faut que ça puisse servir à la population. Pareil pour les forages et tout ce genre d'appui, en fait. L'idée, c'est de fidéliser, je crois, les populations pour qu'elles puissent rester là où elles sont et se sentir quelque part fidèles et loyales à l'État.
Ouais, soutenir les populations, soutenir aussi les activités, peut-être en particulier le pastoralisme, parce que ce qu'on vous dit place, c'est qu'il y a une corrélation assez directe entre le recul du pastoralisme et la montée en puissance du djihadisme. Donc il est indispensable, évidemment, de soutenir l'élevage, le pastoralisme, pour contenir le djihadisme.
Le pastoralisme, c'est l'activité, j'allais dire, économique majeur de cette région, et c'est aussi le grenier à viande de toute la région. Or, les pasteurs, les éleveurs, on le voit avec la montée en puissance des activités illégales et du djihadisme, reculent parce que cela complique leur déplacement, cela complique leur accès aux ressources, etc. Donc, une fois de plus, Exode et compagnie. Donc, on met en danger des populations, on met en danger un système économique et un système alimentaire pour toute une région, et c'est pour ça que un certain nombre de ces projets qui sont faits justement en appui aux pasteurs, c'est-à-dire que sur les routes de transhumance, par exemple, on va aller mettre un certain nombre de services là où l'État n'est plus, mais on va aller mettre des services, comme on parlait des forages, mais tout un tas de trucs, des services sanitaires, etc., pour les vétérinaires, pour les animaux, pour venir donc pérenniser en fait ces routes pour les pasteurs.
Vous disiez tout à l'heure, Claude Guibal, que donc les bailleurs de fonds ont mis vraiment la main à la poche, hein, 2,4 milliards d'euros, c'est plus que ce qui était attendu. Est-ce que cette générosité des bailleurs de fonds est peut-être interprétée comme un prélude à une forme de désengagement des Occidentaux? Est-ce que la montée en puissance des crédits accordés au G5 Sahel, c'est le signe qu'on est en train de dire que ce sont les pays de la région, et en particulier donc le G5 Sahel, qui vont devoir s'occuper maintenant de leur propre sécurité? C'est comme ça qu'on peut traduire les choses?
Je crois que c'est le message qui est quand même en sous-texte depuis la montée en puissance du G5 Sahel. L'idée, c'est de désinvestir en fait les forces françaises, mais d'investir davantage, mais de retirer des gens et laisser aux armées régionales le soin de mener elles-mêmes les opérations sécuritaires. Mais pour ça encore, il faudrait qu'elles soient équipées.
Alors justement, est-ce que ça c'est un bon pari? Parce que vous avez eu l'occasion notamment de rencontrer le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, qui a accordé une interview à un certain nombre de médias français, et il s'est montré assez critique vis-à-vis de l'action de la MINUSMA, donc la force de l'ONU. Quel bilan est-ce qu'il dresse, lui, de l'action du G5 Sahel? Parce que là aussi, évidemment, il y a des résultats, mais il y a aussi des difficultés à lutter contre tous ces groupes armés.
Alors, il faut noter que la Mauritanie préside le G5 Sahel depuis l'été dernier, après l'attaque de la caserne de Sévaré au Mali, du poste de commandement du G5 Sahel. La Mauritanie, en tout cas, je voudrais pas caricaturer les propos du président mauritanien, mais effectivement, il a été très très cassant en disant que la MINUSMA au Mali était dotée de moyens considérables, 13 000 hommes, environ $1 milliard de fonctionnement, et que les résultats se faisaient toujours attendre, alors que le G5 Sahel, lui, demandait 400 millions à peu près de lancement, plus 100 millions de fonctionnement annuel, n'avait pas obtenu à l'époque 40% des sommes promises, et que on ne pouvait pas demander au G5 Sahel, disait-il, de faire plus il faisait peu avec les moyens qui lui étaient accordés. La Mauritanie, c'est vrai, est considérée comme le bon élève du G5 Sahel parce que, sous l'impulsion assez directive, voire brutale de ce président, il y a eu quand même de très très fortes réformes qui ont été faites au niveau de l'armée déjà mauritanienne, qui est une petite armée, mais qui s'est profondément réorganisé en unité mobile extrêmement, très mobile et à la fois légèrement équipée, mais bien équipée. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la chose militaire, mais je me suis renseignée un peu avant et après avoir été sur place. Et tout le monde convenait pour dire qu'effectivement, la Mauritanie avait assez bien réorganisé stratégiquement son armée.
Il y a une
efficace.
Méthode mauritanienne.
Il y a une méthode mauritanienne qui commence à montrer. En tout cas, à minima, au moins.
Il y a notamment des unités composées d'hommes sur les chameaux.
Alors, c'est le groupement nomade qui est en montée en puissance. C'est-à-dire que ce groupement nomade, qui est d'ailleurs financé par l'Union européenne, c'est à terme 200 ou 300 hommes à chameaux qui vont effectivement aller là où on ne peut pas aller, sur la frontière, parce que ce n'est pas accessible, au contact des populations, remplir aussi les fonctions de l'État, c'est-à-dire un certain nombre de choses administratives, mais aussi creuser des puits, mais aussi être au contact de la population, ce qui permet de faire du renseignement humain, qui est aussi le deuxième axe de la stratégie mauritanienne face au djihadisme, c'est d'avoir effectivement de façon très forte renforcé ces structures de renseignement. Donc il faut aller au contact des populations. C'est là où vous avez ces unités. Alors effectivement, c'est Force Hagan. c'est assez impressionnant à voir. Mais c'est vrai que le chameau, c'est le dromadaire, c'est ce qui se font le mieux. C'est comme ça que les gens vont au contact de la population.
C'est comme ça qu'on fait du renseignement.
Les hommes ont une assez grande autonomie de déplacement. Et c'est comme ça qu'on peut aller là où effectivement des véhicules militaires ne peuvent pas se rendre.
Et c'est comme ça qu'on parvient à écarter le risque d'attentat, puisque vous le disiez tout à l'heure, je crois que la Mauritanie, ça fait quasiment 10 ans. Je crois que le dernier attentat, c'était peut-être 2011. Donc,
voilà, c'est ce qui a permis au Quai d'Orsay, l'an dernier, de rétrograder, de lever un petit peu ces interdictions sur certaines zones de la Mauritanie, notamment le nord, le désert de l'Adrar, qui a été rétrogradé en zone orange, et ce qui a permis donc le retour des touristes. C'est vrai que j'étais en Mauritanie dans un charter de touristes qui était plein pour aller effectivement visiter ce désert.
Ouais, justement, j'allais y venir parce que maintenant, alors c'est pas la sécurité totale, mais c'est vrai que les choses vont mieux. Est-ce que ça laisse effectivement espérer un retour des touristes? Je crois qu'il y a eu pour cette année quelque chose comme 1500 touristes.
1500, ils espèrent tripler ce nombre. Il faut voir que la Mauritanie, c'était une zone touristique en pleine expansion. C'est le Paris-Dakar. Hein. Quand le Paris-Dakar a fini, s'est arrêté, a quitté le Sahel pour les raisons de sécurité, ça a été un coup terrible porté à toute cette région-là parce qu'il y avait des investissements touristiques qui ont été faits et qui ont été stoppés d'emblée. Je me suis rendu par exemple à Ouallata, qui est une des villes caravanières qui est près de la frontière malienne, qui est en zone rouge, donc totalement formellement déconseillé aux étrangers. C'est la sœur jumelle de Tombouctou, c'est absolument splendide, mais vous aviez effectivement, les gens étaient mais follement heureux de voir des étrangers. Non, mais il faut que vous reveniez parce qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc on comprend aussi à quel point les investissements qui peuvent être faits, parce que cette région a effectivement un potentiel, pourraient bénéficier à toute la région en termes économiques, en termes de développement, et que ça peut effectivement irriguer et contribuer à tout ça.
Oui, évidemment, ces villes mythiques du désert, elles sont magnifiques. Hein. On a un peu échangé avant de prendre l'antenne, Claude Guibal, et vous me disiez combien c'est beau là-bas.
C'est extraordinaire. Oui.
Merci beaucoup, Claude Guibal, d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste au service international de Radio France. Un grand merci. Bonne journée à vous. La Mauritanie et cette belle région du Sahel pour revenir du côté de l'Europe. On va revenir sur la crise des Gilets jaunes et regarder les conséquences qu'elle pourrait avoir pour le président français sur la scène européenne.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, parce que jusqu'ici, le président français était vu depuis l'étranger comme un chef d'État jeune, volontaire, ambitieux, désireux de défendre le multilatéralisme, d'enclencher le virage écologique, de préserver la rigueur budgétaire, de porter le camp des progressistes. Dans une Europe en pleine fièvre nationaliste, à moins de 6 mois des élections européennes, les choses sont un peu différentes aujourd'hui.
Je comprends très bien les motivations économiques, sociales, culturelles d'un mouvement qui, je l'espère, atteindra des objectifs concrets. Je me souviens qu'il y a quelques mois, Macron était le champion de la nouvelle Europe pour toute la gauche italienne. Matteo Renzi, Laura Boldrini, Piero Fassino. Il y avait un refrain pour le nouveau génie de l'Europe. Le nouveau sauveur de l'Europe. Il se trompait encore. J'espère pour le bien des Français qui sont un grand peuple qu'ils sortiront de ce moment de crise. Le fait que Macron est un produit de laboratoire inventé uniquement pour empêcher tout changement à l'horizon me semble évident désormais.
Cette voix que vous entendez, c'était celle de Matteo Salvini à propos des Gilets jaunes, vice-premier ministre italien. On est effectivement très loin de l'image de super-héros et sauveur de l'Europe et presque du monde qui avait été construite dans le sillage de son élection. Alors que pèse des désormais Emmanuel Macron sur la scène internationale et en particulier sur la scène européenne, de quel crédit jouit-il auprès de ses partenaires? Est-ce que les Gilets jaunes ont compromis les ambitions européennes de Macron? Yves Bertoncini et Clémentine Forissier sont nos invités, merci encore d'être avec nous. Cher Marc Sémo, notre partenaire du Monde, on va commencer ensemble. Il y a un an, en novembre 2017, Emmanuel Macron faisait la une du Time. Il était présenté comme le futur leader de l'Europe, et effectivement... Quand on regarde un peu les choses, on avait déjà une Angela Merkel qui était à la peine, on avait une Theresa May engluée dans ce Brexit, et effectivement, le président français apparaissait comme l'homme fort de l'Europe. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec cette crise des Gilets jaunes, la donne a changé, et c'est quelque chose qui apparaît de façon extrêmement claire dans la presse internationale et la presse européenne cette semaine.
Oui, le projet de Emmanuel Macron était pour le moins ambitieux, réformer la France pour lui rendre sa crédibilité vis-à-vis de l'Allemagne, et relancer l'Europe pour en faire, c'était ses propres mots, le leader du monde libre. Alors, il semblait jouable, tant l'image effectivement du président français était forte à l'étranger, et tant les autres leaders occidentaux, européens, comme Angela Merkel ou Theresa May, ou le leader américain Donald Trump, leur image était profondément écornée. Alors, les Gilets jaunes ont fait voler en éclat cette équation. Ils ont montré un chef d'État d'abord sourd et aveugle vis-à-vis de la protestation, dépassé par les événements, avant finalement de céder en déversant 10 milliards d'euros d'argent public pour tenter de calmer la rue. En somme, c'est la France de toujours, telle que la voient les habituels turiféraires de la rigueur budgétaire outre-Rhin et ailleurs. Le déficit public devrait cette année avoisiner les 3,4%. Mais avant même cette crise... La stratégie européenne de Macron montrait toutes ses limites, car il était perçu trop souvent comme arrogant. L'Europe plus resserrée, pour être plus efficace qu'il appelle de ses voeux, était d'une certaine façon une grande France, sauf que le pari politique qu'il avait réussi en France en 2017 n'était pas jouable en Europe, et se poser comme la seule alternative vis-à-vis de Matteo Salvini et autres leaders populistes était pour le moins dangereux. Alors aujourd'hui, le discours d'Emmanuel Macron a changé, il est devenu plus rassembleur, mais là aussi, comme pour les Gilets jaunes, il est bien tard, et faute de vrais partenaires, il est toujours plus seul en Europe.
Voilà, le décor est posé. Clémentine Forissier, est-ce que Emmanuel Macron a définitivement rejoint le club des dirigeants européens affaiblis?
Alors, si vous regardez les dirigeants européens, est-ce que vous pouvez m'en citer un qui est vraiment, vraiment en forme, qui a un pays qui se porte bien, qui est leader en Europe, qui a un poids, etc. Alors, je vois le Portugal qui va à peu près correctement bien, mais si vous regardez l'Allemagne, Angela Merkel est en fin de course, elle n'a aucune marge de manœuvre. Si vous regardez l'Italie, c'est quand même un pays qui est dans une situation politique assez compliquée. L'Espagne est hyper fragile, le Premier ministre est dans un gouvernement minoritaire. Les Suédois ont eu l'extrême droite... Qui a fait des percées aux dernières élections. L'Est de l'Europe, je vous en parle même pas. Donc, je sais pas vraiment si, à la limite, l'expression quand je me regarde, je me fais peur, mais quand je me compare, je me rassure. Si on se compare, on peut. Je suis pas sûre que voilà, on soit vraiment très très inquiet. Après, ce qui est sûr, c'est que. Il est plus, il a perdu son aura et il a perdu en force politique. Si on regarde la une du Time dont vous parliez tout à l'heure, il y avait un espèce de petit astérix. Je sais pas si vous l'avez
je
vu.
Je me souviens pas, non.
Et il y avait écrit donc le prochain leader de l'Europe. Et en bas à droite, il y avait écrit « Si seulement il peut gouverner la France ». Et en fait, tout est là-dedans, c'est-à-dire
que... J'avais omis ce détail.
C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, si vous êtes faible ou affaibli au plan intérieur, vous êtes affaibli au plan international. C'est une certitude. Et hier, ce qui est intéressant, c'est que je discutais avec un responsable politique d'un pays de l'Est de l'Europe qui nous disait que, bien sûr, ça apportait un sacré coup à son image, mais qui, en même temps, s'interrogeait sur le réel impact des Gilets jaunes sur Macron. Il y a encore une sorte d'incertitude sur... Mais qu'est-ce qui va en sortir de ça, finalement? Est-ce qu'il va réussir à reprendre un peu la main, ou est-ce que c'est définitivement foutu et qu'effectivement on revient dans ce qu'on connaît de la France, qui, au bout d'un an et demi, le chef de l'État, voilà, a une contestation sociale très forte, ou alors un changement de cap, et puis après on revient à business as usual?
Yves Bertoncini, est-ce que Emmanuel Macron a perdu toutes ses capacités de réforme, ou, et donc a définitivement rejoint le club des dirigeants assez bien fournis, affaiblis en Europe?
Son étoile a pâli, mais elle brille encore, ne serait-ce que par défaut, comme ça vient d'être dit. Il a quand même devant lui encore 3 années de règne, a priori sans contestation. Les institutions de la Ve République le protègent, comme elles en ont protégé d'autres avant lui. Simplement, c'est vrai qu'il est confronté dans son pays à une grogne multiforme, à ce mouvement qui a beaucoup frappé les esprits. Hein. Une image qui a vraiment fait le tour du monde, c'est celle qui résume tout, de l'Arc de Triomphe, puisque le 11 novembre, les chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont à l'Arc de Triomphe, et puis 3 semaines après, ce monument symbolique est mis à sac, au moment même où les mêmes dirigeants sont au G20 et regardent ça sur leurs écrans. Donc bien sûr, là, il y a une déflagration qui affecte sa crédibilité, sa légitimité, d'abord dans notre propre pays. Mais pour autant, écoutez, quand on regarde les choses un peu plus positivement, Emmanuel Macron a été vu comme un architecte de l'Europe. Il a défini une vision de l'Europe. À la Sorbonne notamment, à Athènes, il a fait des grands discours. Là, il est passé aux travaux de maçonnerie, je dirais. Et au moment même où on parle, le Conseil européen est en train de décider, en tout cas d'avaliser ou de prolonger certaines initiatives que Emmanuel Macron a poussées en matière de zone euro notamment, de sécurité collective, défense. Bon, voilà. Ça se voit moins, évidemment. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il se voulait un architecte, il avait commencé à être un maçon et qu'on en est réduit désormais au rôle de pompier. Non pas seulement en Europe, parce qu'il y a beaucoup de crises qu'il faut affronter, mais maintenant dans son propre pays. Et donc évidemment, s'il n'arrive pas à éteindre cet incendie-là, tous ces beaux projets pour la France, mais aussi pour l'Europe, seront beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre.
Oui, mais quand même, Yves Bertoncini, je vous donne la parole tout de suite, Marc Sémo, mais on voit un vrai virage du côté d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'il se fait désormais le maçon de l'Europe alors qu'il en était l'architecte. On peut vraiment se demander si c'est encore, on a encore un Macron l'Européen. Quand vous décidez effectivement de faire de telles concessions, et je ne juge pas, hein, effectivement, elles étaient nécessaires, la crise économique et sociale est réelle en France, mais quand vous décidez comme ça d'éclater le budget comme ça va être fait, et donc de ne plus respecter la règle des 3% du traité de Maastricht, vous ne respectez donc plus les règles européennes. Comment ensuite vous pouvez vous faire celui, le grand défenseur de l'Europe? Est-ce que ce tournant-là qu'on a vu avec Emmanuel Macron en début de semaine, c'est pas la transformation de Macron l'Européen en Macron le Français d'une certaine manière? Et peut-être que d'une certaine manière, il se rapproche des souverainistes de tout poil d'Europe.
Oui, naturellement, mais il faut quand même... essayez de regarder ça du point de vue européen. Bon, d'abord, la France n'a jamais vraiment respecté cette règle des 3%.
Il s'est engagé là-dessus très fortement, et en particulier auprès des Allemands.
Mais il n'y a que les Français pour croire que c'est un dogme. Parce que si c'était vraiment un dogme, on serait excommunié depuis très longtemps. Dans les 10 dernières années, on l'a respecté une fois, peut-être deux.
Voilà. C'était sans importance pour les Allemands.
Ça n'est évidemment pas sans importance. Les Allemands sont affligés de cela. Maintenant, si vous regardez les choses un peu dans le détail, on a bien le droit de refaire un peu plus de 3%. Simplement, il ne faut pas le faire 2 ans de suite. Il se trouve que si on fait 3%, c'est parce qu'on a transformé le crédit d'impôt en baisse de charges permanente. Donc, on trouvera des accommodements. Et si la France dérape juste une année, c'est pas là-dessus qu'on viendra la chercher. Non, le problème est plus large. C'est est-ce que sa capacité de réformateur de la France est encore intacte ou non? Et c'est ça qui navre le plus les Allemands. Les Allemands, quand ils ont fait les réformes Schröder-Hartz dans les années 2000, ils ont aussi dépassé les 3%.
Ils n'ont pas respecté les 3%.
Non, mais ce qui est en jeu, c'est pas la comptabilité européenne. Et encore une fois, les Européens sont très flexibles sur les 3%. C'est est-ce qu'il va pouvoir continuer le train de réforme qui permet de corriger les défauts structurels de la France. Et n'oublions pas une chose, et ça je l'ajoute quand même à ce stade de la discussion, Emmanuel Macron a un agenda ambitieux, il s'est voulu le premier de la classe, il a été élu européenne, il a été élu sur l'air de l'hymne à la joie, maintenant c'est un peu la soupe à la grimace en lieu de ça, mais les résultats qu'il avait obtenus jusqu'ici, au-delà de l'effet placebo qu'il a dégagé, étaient très très limités, pas seulement la dette et le déficit, Le taux de croissance de la France, le taux de chômage de la France nous place toujours dans les derniers de la classe. On est à 23e position, 22e, 24e en Europe. La crise récente va encore dégrader nos performances. C'est là-dessus que sera jugé Emmanuel Macron et les Européens peuvent encore lui faire un peu de crédit parce que ces réformes produiront sans doute leurs effets avec un peu plus de temps.
Marc Semo.
Oui, ils n'iront, de fait, les Européens sont très discrets là, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais le symbole en politique est fondamental. Alors là, on se trouve dans une situation où jamais, autant qu'avec Emmanuel Macron, le pouvoir de cette monarchie républicaine qui est la 5e République n'a été aussi concentré. Et jamais, d'une certaine façon, il n'a paru aussi dysfonctionnant. Parce que de l'affaire Benalla à l'affaire des Gilets jaunes, on voit un président de la République qui, finalement, court derrière les événements, n'arrive pas à saisir d'emblée l'ampleur des événements et qui, finalement, réagit ensuite dans la panique. Et est-ce que ce n'est pas ça, aujourd'hui, le plus gros problème, d'autant qu'on a vu Emmanuel Macron en Europe, perçu quand même très souvent comme arrogant. Par exemple, l'échec de réussir à transformer les 79 sièges qui allaient être laissés par les Britanniques au Parlement européen en liste transnationale, qui était d'une certaine façon quelque chose de bon sens, où il y avait le soutien d'un certain nombre de groupes au Parlement européen, dont les démocrates et les libéraux. Macron était à fond pour, et finalement, ça a raté. Et ça a raté aussi parce que, d'une certaine façon, Emmanuel Macron parle moins bien l'européen que Michel Barnier.
Clémentine Forissier, Emmanuel Macron n'est plus le maître des horloges.
Il n'est plus le maître des horloges, mais si vous regardez, effectivement, si vous regardez les choses du point de vue français, vous pouvez vous dire ça. Si vous regardez les choses en discutant avec d'autres pays européens, en fait, dès le départ, on ne pouvait pas vraiment se dire ça. Certes, c'était pour la première fois un président qui parlait d'Europe sans honte et qui, en fait, le mettait au cœur de son programme. Mais là, j'étais en Allemagne il n'y a pas longtemps. En Allemagne, ils vous disent, mais le programme d'Emmanuel Macron sur l'Europe, il faut arrêter de nous dire que c'est lui le grand européen. Il a proposé des choses qui sont aussi très importantes pour lui au plan national. Et en fait, on voulait pas trop lui mettre de bâton dans les roues. Mais par exemple, la réforme sur les travailleurs détachés, vu d'Allemagne, c'est un peu un cadeau qu'on fait à Emmanuel Macron. On n'a pas voulu trop lui dire que ça servait à rien de remettre en cause ce qui était déjà sur la table. Mais
d'accord, mais sur le budget de la zone euro, par exemple, il l'a porté haut et fort. C'était pas dans l'intérêt direct de la France. C'est pour faire émerger une vraie solidarité européenne.
Ne voit pas l'intérêt du budget de la zone euro. Les Néerlandais ne voient pas l'intérêt.
C'est surtout qu'ils n'en veulent pas, mais enfin, c'est de la solidarité européenne, mais c'est pas pour les Français.
Mais ils considèrent, de leur point de vue, que la solidarité européenne, ça passe par « faites d'abord les réformes chez vous ». On peut juger que c'est stupide, on peut ne pas être d'accord, etc., mais n'empêche que c'est leur façon de voir les choses. Et on a une façon de voir les choses qui est très française et qui ne remporte pas du tout forcément l'adhésion chez nos partenaires.
D'accord, Clémentine Forissier, mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois encore, les Allemands étaient d'accord pour lâcher un peu de lest sur cet ordolibéralisme à l'allemande et que désormais c'est terminé.
Ils ont fait à Meseberg, il y a eu un sommet en juin franco-allemand où on s'est mis d'accord sur une sorte de feuille de route qui a été extrêmement difficile à arracher. Les détails, il n'y avait aucun détail dans ce truc-là. Et après Meseberg, il ne s'est rien passé du côté des Allemands. Ils n'ont pas du tout fait le travail de conviction que normalement on peut espérer après un accord franco-allemand. Il n'y a pas du tout ça. Les Français l'ont fait, pas les Allemands.
Yves Bertoncini.
Mais je crois qu'il y a un malentendu fondamental sur, la réforme de la zone euro entre les Français et les Allemands, qu'aggrave encore, le positionnement d'Emmanuel Macron, consistant à, dans une manière un peu prophétique, bienvenue, à ne pas valoriser ce qui s'est fait les années précédentes. L'ordolibéralisme allemand dont vous parlez, mais a avalé son chapeau à plusieurs reprises depuis 2011. Enfin, la crise de la zone euro a conduit les Allemands à abandonner toute leur position de principe. L'hyperactivisme de la Banque Centrale Européenne, pourtant sise à Francfort et qui est sortie totalement de l'orbite allemande. L'aide à la Grèce et à l'Irlande, le fameux mécanisme européen de stabilité dont les Allemands ne voulaient pas, ça leur a quand même coûté l'émergence d'alternatives Deutschland. L'union bancaire, la fameuse union bancaire qu'on va essayer d'approfondir là en ce moment même avec trois piliers, etc. Les Allemands n'en voulaient pas. L'application hyper flexible du pacte de stabilité et de croissance, y compris au bénéfice de la France, c'est pas la rigueur protestante l'a emporté là-dessus. Même le plan Juncker, j'en passe, est des meilleurs. L'ordolibéralisme allemand a capitulé en race campagne depuis 5 ans. Et si nous, Français, si on ne métabolise pas ça, si on ne se rend pas compte que pas seulement les Allemands, les Néerlandais et autres ont déjà tellement lâché et qu'on en rajoute encore, bien sûr qu'on obtiendra au forceps, comme l'a dit Clémentine, un budget pour la zone euro. Et moi, je m'en réjouis. Il le faut, ce budget pour la zone euro. Mais enfin, tout ça est fait dans la douleur, c'est compliqué.
Enfin, on l'aura, mais pas à hauteur de ce qu'espérait Emmanuel Macron et de ce qu'il présentait précisément au discours de la Sorbonne en septembre 2017. Il voulait plusieurs points de PIB. On est très, très loin du compte.
D'autant moins que, quand on a ce, voilà, ces plans d'architecte pour l'Europe, on est tout de suite renvoyé dans nos buts avec cette fameuse phrase très allemande, mettez d'abord votre maison en ordre. Et c'est vrai que malheureusement, le président Macron essaie, peut-être qu'il va y arriver, mais là, moment, en ce moment, c'est plutôt en désordre que sa maison.
Oui. Mais alors, juste un point là-dessus. Maximum. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement de son discours? Parce que, donc, il s'était posé en alternative aux nationalistes. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que le discours d'Emmanuel Macron pour la campagne pour les européennes a beaucoup changé, parce que se poser en alternative aux nationalistes, avec ces résultats-là, le met en porte-à-faux. L'isole vis-à-vis d'un certain nombre de grands courants démocratiques européens, les sociaux-démocrates et même le PPE. Alors est-ce que finalement là-dessus aussi, il n'y a pas comme sur ce qui se passe en France, un retour en arrière et une remise en cause de ce qui était son discours public?
Alors là-dessus, il y a deux sons de cloche. Effectivement, il y a eu un changement de ton, un changement de discours. D'abord parce que, y compris parmi les partenaires qu'il a en Europe, on lui a dit non mais cette opposition nationaliste progressiste, nous, on s'y retrouve pas du tout. Et notamment au sein de l'ADLE, qui est le groupe européen des libéraux, avec lequel finalement ils acceptent de faire alliance de façon objective et sans vouloir renverser la table. Donc on lui a dit, mais nous on se reconnaît absolument pas dans cette opposition-là, on peut être progressiste de différentes manières, c'est pas aussi binaire. Et alors après, côté En Marche, on nous dit que en réalité c'était un discours de début de campagne qui permettait de capter l'attention, qui parle à une certaine catégorie de leur électorat qui est plutôt la population plus âgée, et que là en deuxième partie de campagne il faut changer de discours. Donc ça c'est la version.
C'est la réalité qui a changé et en réalité tout était prévu.
Enfin, on avait quand même bien compris que l'ambition d'Emmanuel Macron en créant cet antagonisme progressiste versus souverainiste, c'était quand même pour rejouer la campagne qui s'était faite en France, c'est-à-dire rejouer le match avec Marine Le Pen.
Ils se sont rendus compte cet été qu'ils n'y arriveraient pas.
Et bousculer, recomposer le paysage politique européen, et forcé de constater que ça a été un échec.
Mais c'est évident d'entrée de jeu.
Oui, mais ils ont mis du temps à l'admettre officiellement.
Yves Bertoncini.
Mais ça renvoie en effet à cette idée de rejouer la pièce qui a permis le succès d'Emmanuel Macron au niveau national. Ça renvoie quand même à quelque chose. Il y a quand même en Hongrie, en Italie, des nationalistes qui en effet sont sur les sujets européens. Alors non pas dans une volonté de destruction, c'est bien ça le problème. Ce ne sont pas des europhobes, ils ne veulent pas partir comme les Britanniques essaient laborieusement de le faire. Ils veulent rester, mais ils veulent rester en changeant beaucoup de choses, en refusant beaucoup de mécanismes de solidarité, notamment de contraintes. Ce sont des souverainistes qui sont dans la maison commune. Bon, donc il y a quand même, sur l'état de droit, les valeurs, il y a un fond de réalité dans cet affrontement. Mais en effet, cet affrontement a été poussé en avant par Emmanuel Macron pour des raisons tactiques et à partir d'un constat qui est un constat de faiblesse, pour le coup, du point de vue partisan, n'a pas de relais au niveau européen. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça ne l'a pas aidé parce que, au fond, de vouloir faire du chamboule-tout au niveau du Parlement européen comme il y est arrivé en France, c'est quand même une forme d'hostilité vis-à-vis des pouvoirs en place et notamment du Parti populaire européen d'Angela Merkel. Et donc c'est difficile le matin de faire des compromis avec elle et puis le soir de faire en sorte de torpiller l'impérium du PPE au Parlement européen. Je crois que le principe de réalité maintenant s'impose. Ça ne serait pas si mal si La République En Marche arrivait à envoyer dans le groupe centriste, hein, libéral, démocrate, la délégation la plus importante, parce qu'avec 20% même en France, ils enverraient le contingent le plus important du groupe qui deviendrait sans doute un groupe charnière, puisqu'il y aurait toujours probablement la première place pour le Parti Populaire Européen, peut-être la deuxième pour les sociaux-démocrates, mais en tout état de cause, compte tenu de la poussée des autres forces radicales, il faudrait sans doute que trois groupes s'unissent. Trois groupes, donc les libéraux qui fassent la pointe. Et à ce moment-là, d'avoir la délégation nationale la plus importante dans le groupe central, ça ne serait pas si mauvais. Mais ça ne serait pas évidemment le chamboule-tout auquel aspirait Emmanuel Macron.
On revient au centrisme.
Oui, écoutez, en même temps de droite, en même temps de gauche, je crois que ça signifie le centre.
On finit au milieu. Allez, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour, on le diffuse sur les réseaux sociaux. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
quand le dessin éclaire l'actualité. Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors le dessin de ce matin, le mouvement des Gilets jaunes, évidemment vu de l'étranger.
Et oui, et vu des Pays-Bas précisément, avec ce dessin signé Martins Wolterink, qui travaille pour Joop notamment. C'est un journal en ligne où le dessin est paru le 22 novembre. On peut aussi le retrouver sur son fil Twitter, avec d'ailleurs beaucoup d'autres caricatures sur cette thématique du mouvement social en France, visiblement très inspirante pour Wolterink. Alors au premier plan, eh bien, nous avons trois gilets jaunes, fort mécontents. L'un d'eux brandit une pancarte de manif où l'on peut lire « Macron, tu nous pompes » en lettres capitales. Le second gilet jaune à ses côtés est très en colère, la tête renversée, la bouche grande ouverte. Il semble crier, hurler, vociférer. On l'entend d'ici, dans son poing levé bien haut, une autre pancarte en forme de pompe à essence avec un drapeau français. Et il est écrit « 1,49 €». 1,49 €, c'est le prix, à quelques variations près, du litre du carburant en France avant le projet de taxe, qui entre-temps donc a été abandonné. Et le troisième gilet jaune, eh bien lui, a le regard attiré par ce qu'il se passe derrière lui. Il a l'air un peu étonné. Et effectivement, au second plan, on voit trois autres individus. Alors, eux ne portent pas de gilet jaune, mais chacun une pancarte avec à chaque fois le drapeau d'un pays et le prix de l'essence correspondant. 1,54 € pour l'Allemagne, 1,58 € pour les Pays-Bas et 1,60 € pour l'Italie. Autrement dit, entre 5 et 11 centimes de plus qu'en France. Et on peut voir un léger sourire sur les visages de ces trois Européens, un sourire moqueur peut-être à l'égard de ces Français qui protestent et qui râlent alors que visiblement ils payent moins cher leur essence. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai hein, si on prend la question à l'échelle de toute l'Europe. D'après un comparatif récent du journal Le Monde, la France arrive même en 6e position des prix les plus élevés devant le Royaume-Uni, la Suède, la Belgique ou encore l'Irlande. Mais il faut croire que l'image du peuple gaulois, toujours râleur et, je cite le président lui-même, réfractaire au changement, eh bien à la vie dure à l'étranger. Alors cliché ou réalité, on s'abstiendra bien sûr de trancher ce débat ici. Dernier élément du dessin, eh bien ce ballon de baudruche qui flotte au-dessus des trois Européens avec un gros cœur rouge et ce message « Nous, on aime Macron ». Je ne sais pas si c'est une porte de sortie, mais c'est peut-être bon à savoir pour le président.
Clémentine Forissier, Hubert Onsigny, réaction sur ces dessins qu'on met en ligne sur le site de France Culture, les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, le compte Twitter de Culture Monde. Clémentine Forissier.
Hier, je posais la question à un responsable d'un autre pays d'Europe et je lui disais, est-ce qu'il pourrait y avoir... voilà, en France, on a besoin de faire des réformes sociales. Est-ce qu'en Europe, on pourrait en faire aussi et que ça permettrait de reconnecter l'Europe et les citoyens? Il m'a regardé, il m'a dit nous, dans notre pays, quand les Français parlent de social, on comprend pas de quoi ils se plaignent. Et en fait, je pense que voilà, du point de vue de pas mal de nos partenaires, on est dans un pays assez privilégié avec un système de protection sociale qui fonctionne et que eux, de leur côté, n'ont pas ça et du coup, ils ne comprennent pas très bien vers quoi, enfin, ce qu'on veut de plus. Et c'est un peu ce que m'inspire ce dessin.
Hubert Onsigny.
Je pense que malheureusement, ce que la crise actuelle rappelle aux Européens, ça les désole, en même temps que ça les fascine, c'est que nous avons un système politique, nous, unique en Europe, hein, en Europe, qui confie tous les pouvoirs à une personne. Bon, il se trouve que ça a toujours été un homme jusqu'ici, à un homme. Et que ce système politique qui confie tant de pouvoirs à une personne est inefficace, en fait. C'est l'absolutisme inefficace. C'était ce que disait déjà Jean-François Revel il y a bien des années de ça dans un livre intéressant. Et donc, ils ont vu arriver à nouveau un monarque républicain, parfaitement légitime, naturellement, qui a tous les leviers de pouvoir, qui a tendance, semble-t-il, à les concentrer un tout petit peu, de surcroît, qui n'est pas entravé par une coalition, qui a un parti à sa main, puisque ce parti a même été fondé à partir de ses initiales. Donc, l'hyper-concentration personnalisée du pouvoir... tous les atouts en main, et puis quoi, au bout d'un an et demi, l'impression que le roi est nu. Alors il ne l'est pas, puisque comme je l'ai rappelé, il y a des institutions, il est légitime, il peut continuer. Et ça désole les Européens, parce qu'ils se disent, mais comment se fait-il que ce pays, de par ses infrastructures politiques, vous voyez, il ne s'agit pas seulement de la culture, des Gaulois et de je ne sais quoi, de très culturel qui nous empêcherait de changer, c'est comment se fait-il que ce pays, qui est un pays très important pour l'Europe, n'arrive pas, et ce n'est pas la première fois, à délivrer des réformes, des résultats. Et ce n'est pas la première fois, y compris sur un sujet énergétique, puisqu'il y avait déjà eu le recul face... c'était au bonnet rouge, je crois, à l'époque. Voilà. Là, c'est encore un peu plus gênant, parce que là encore, Paris était la capitale de la COP21, un grand succès, etc. Et puis, sur cette question des taxes, dont on voit bien en effet qu'en plus elles ne sont pas si élevées que ça. En tout cas, ça, les taxes sont élevées, mais le prix de l'essence n'est même pas le plus cher d'Europe. On aurait pu rajouter la Grèce hein, dans le panorama. Eh bien, on chute à nouveau. Donc c'est désolant en fait pour les Européens, parce que je veux quand même le dire, pour que l'Europe fonctionne, il faut que les États membres et les gouvernements soient forts. Or, c'est un affaiblissement de plus, et pas dans n'importe quel pays.
Sachant que tous les exécutifs, à peu près, Clémentine Forissier nous le rappelait tout à l'heure, sont aujourd'hui affaiblis en Europe. Si on revient sur cette difficulté qu'on évoquait tout à l'heure d'Emmanuel Macron à relancer l'Europe, et que peut-être on retourne du côté de l'Allemagne, et voir quelle responsabilité aussi pour Angela Merkel, parce que peut-être qu'elle n'a pas su, voulu, en tout cas, répondre à la main tendue d'Emmanuel Macron. Alors, il faut évidemment se souvenir qu'il y a eu un contexte particulier ces derniers mois, qu'il y a eu un score historiquement bas de son parti, qu'on a mis des mois à se mettre d'accord pour une nouvelle coalition, mais de fait, voilà, l'Allemagne ne s'est pas toujours montrée très attentive, très à l'écoute sur cette ambition de relance européenne. Il se trouve que précisément, la CDU vient de changer son leader. Hein. Emmanuel Merkel n'est plus à la tête de la CDU. Elle a été remplacée par Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la relance européenne? Est-ce qu'elle va pouvoir... Alors, évidemment, elle n'est pas encore chancelière. Hein. Je suis bien au courant. Mais en règle générale, c'est souvent comme ça que ça se finit. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la relance européenne, Yves Bertoncini?
D'abord, vous avez tous deux dit de relance européenne. C'est d'autant plus difficile pour Emmanuel Macron de réaliser son objectif que lui, il a même parlé de refondation de l'Europe. Et les Allemands ne veulent pas refonder l'Europe, je pense. Globalement, ça leur va pas si mal, l'Europe telle qu'elle est. Ils voudraient bien que la France fasse plus d'efforts en matière d'asile, hein, parce que ça aussi, là-dessus, c'est plutôt la France qui n'a pas saisi la main tendue par les Allemands. Mais ensuite, ils veulent bien réorienter, changer deux ou trois choses. C'est plutôt mieux que ça soit AKK qui ait succédé à Angela Merkel, parce que c'est la candidate de la continuité. Mais c'est vrai que les Allemands... consentiront, ils le font en ce moment même, à créer un budget de la zone euro dont on discutera bien des détails. Ils consentiront à aller de l'avant dans l'union bancaire, la garantie des dépôts, hein, parce qu'ils y sont hostiles en principe. Ils essayent, et c'est là-dessus qu'on doit les attendre, de faire davantage en matière de sécurité collective et de défense, parce qu'on a besoin d'eux, et
ils
n'en
font
pas assez.
Ils ont beaucoup bougé sur ce
point. Oui, et ils vont encore bouger, mais mettons-nous un tout petit peu à leur place. C'est-à-dire qu'on le sait bien, hein, historiquement, les Allemands ont été réticents à tout engagement militaire après leur histoire tragique, le nazisme. Faire monter en puissance l'armée allemande, ça va prendre des années et des années. Mais là-dessus, il y a un terrain commun. Je crois même que les Allemands ont besoin du cadre européen pour se réarmer. Madame Merkel a tout de suite dit l'armée européenne, c'est très bien, alors que ça hérisse le poil de pas mal de pays. C'est un concept étrange. Mais de toute façon, les Allemands nous aideront. Mais il faut que nous nous aidions nous-mêmes avant. C'est-à-dire que je crois, et je termine là-dessus, qu'un des arguments qu'on va voir revenir en Allemagne, qu'on voyait très bien avant la présidentielle, c'est qu'il faut aider, oui, il faut aider les Français. On ne peut pas se permettre de laisser la France tomber dans les bras des extrémistes. On ne veut pas ça. Donc les Allemands iront jusqu'où ils peuvent aller. Mais enfin, après, il faut que nous-mêmes nous prenions les décisions. C'était d'ailleurs un des apports d'Emmanuel Macron dans sa campagne. Arrêtons de blâmer Berlin, le monde, l'Europe et la météo. Nous avons les ressources, nous allons y arriver. Prenons notre destin en main. Maintenant, il faut qu'il y arrive.
Clémentine Forissier, une bonne nouvelle, cette arrivée d'AKK?
En fait, on pourra s'en reparler peut-être dans un an. Parce que là, honnêtement, il y a un contrat de coalition qui existe. Angela Merkel est toujours chancelière. Certes, AKK, elle sera là aux réunions de coalition du gouvernement et elle aura son mot à dire. Mais mine de rien, Angela Merkel était déjà liée quotidiennement. Elle rendait compte à son Parlement. On n'a pas du tout la même manière de fonctionner en Allemagne qu'en France. Et puis, il y a quand même... les élections européennes qui arrivent, le Parti socialiste allemand, enfin le SPD, qui est dans un état très 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 calamiteux, pas autant qu'en France, mais qui a quand même vraiment baissé. S'ils font un très mauvais score aux élections européennes, on peut se demander, et il y a d'autres élections qui sont importantes pour eux en octobre, on peut se demander si la coalition va tenir. Si la coalition tient pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconstitue une coalition, mais avec qui? Un gouvernement minoritaire en Allemagne? Bref, la situation politique en Allemagne, elle est quand même... précaire à ce stade, donc elle va continuer, la coalition va pas s'effondrer, les institutions existent, la chancelière est là, mais enfin il va pas se passer grand chose à mon avis dans l'année qui vient, et de toute façon les Allemands ne voient pas du tout les choses comme nous sur la refondation de l'Europe, ça ne leur parle absolument pas. Ils se voient comme un acteur global qui doit protéger son industrie, on le voit d'ailleurs sur la taxe sur les GAFA. Là, la principale opposition des Allemands, c'est qu'ils ont peur que cette taxe sur les GAFA ait des répercussions sur leur industrie automobile. Et donc, ils sont pas du tout dans la même logique que nous. Alors c'est vrai, ils consentent au bout d'un moment, sur les dossiers que nous, on porte, à y aller. Alors, le budget de la zone euro, quand Macron était en campagne, on parlait de plusieurs points de PIB. Là, on en est à parler de peut-être 20, 25 milliards d'euros sur 7 ans. Alors, mais après, si on voit les choses de façon optimiste, on peut se dire peut-être qu'on enfonce des portes. Et puis, petit à petit, les choses avancent, mais ça prend beaucoup de temps.
Allez, toute dernière question, il nous reste 1 minute 30 à peine, on va faire très vite, mais quand même le fait saillant évidemment sur l'Europe cette semaine, c'est la Grande-Bretagne avec d'abord l'annulation du vote sur l'accord, ensuite ce vote de défiance au milieu de la semaine qui a abouti à un échec et qui donc permet à Theresa May de se maintenir, sauf que désormais on n'a absolument aucune idée de ce qui va se passer, est-ce qu'on va voter le texte, est-ce qu'on va vers un no deal, est-ce qu'on va vers un nouveau référendum, est-ce qu'on pourrait peut-être suspendre aussi l'article 50 et geler finalement le divorce. Tout est possible aujourd'hui, Yves Bertoncini. Qu'est-ce que vous nous prédisez pour la fin du mois de mars, Yves Bertoncini ?
Oui, c'est très difficile de prédire. Les Britanniques ont tiré les premiers, mais la balle est toujours dans leur camp. Hein. Elle est à Westminster, la balle. Qu'est-ce qu'on peut prédire si on regarde les textes européens ? Un Brexit, les Britanniques l'ont souhaité. Au bout de 2 ans, ils sortiront. J'espère avec un accord, parce que ça réduirait les dommages collatéraux immenses, y compris pour la France, de ce Brexit. Je crois qu'après tout, in fine, au bord du gouffre, après un premier vote négatif à Westminster, il y aura sans doute un vote positif courant janvier, et qu'il y aura un Brexit ordonné. Simplement, c'est là que les ennuis commenceront vraiment, parce que quand il s'agira non pas de divorcer, mais de négocier le Pax à venir, pendant 1 an ou 2, comme il n'y a pas qu'un Brexit, en réalité il y a plusieurs Brexits, il y avait des Brexits contradictoires, il va être très difficile aux Britanniques de se mettre d'accord sur l'endroit où ils veulent aller habiter une fois qu'ils auront quitté la maison commune.
Clémentine Forissier.
En deux mots, peut-être effectivement, c'est vraiment c'est impossible de dire ce qui va se passer, mais peut-être un
vote... C'est pour ça que je vous demande.
Voilà, peut-être un vote négatif, parce que pour l'instant elle n'a toujours pas de majorité, même si elle a eu la confiance de son parti. Un premier vote négatif, peut-être... Peut-être que personne ne veut le Brexit dur et que finalement elle y arrivera. Peut-être un décalage de 1 mois ou 1 mois et demi de la sortie, si jamais on pense qu'on peut obtenir un vote du Royaume-Uni. Le Brexit sans accord n'est pas du tout exclu. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. Mellow yellow, évidemment, petit clin d'œil au gilet jaune. Yves Bertoncini, vous disiez hors antenne, là, il y a peut-être une autre chanson pour le Brexit.
Oui, l'Hôtel California, à la toute fin. You can check out anytime you want, but you can never leave. C'est peut-être ce que les Britanniques vont chanter. Au printemps prochain.
Allez, merci beaucoup Yves Bertoncini d'avoir été avec nous ce matin, président du Mouvement Européen France. Merci également à vous Clémentine Forissier, je rappelle, rédactrice en chef de Contexte, le journal des politiques françaises et européennes. Et un grand merci à vous, cher Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Absolument.
Merci beaucoup. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gisbert. Mais d'abord, 11h53, c'est l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, on sait à présent, et on le disait à l'instant, qui va succéder à la chancelière Angela Merkel à la tête de la CDU, c'est AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Bravo, vous l'avez bien prononcé. Mais dans quel état Merkel laisse-t-elle la CDU ? Comment la scène politique allemande fait-elle face à une crise des partis politiques qui n'épargne pas l'Allemagne ? Et où en est l'Allemagne elle-même, après 18 ans de règne ininterrompu d'Angela Merkel ? La CDU est redevable à Merkel d'être demeurée l'un des grands partis de masse de centre-droit en Europe à ne pas avoir été emporté par la vague dégagiste. Mais au prix d'un glissement vers le centre-gauche qui a asséché en partie l'électorat du SPD. abandon de l'énergie nucléaire, abolition du service militaire, politique d'accueil des migrants en 2015, autant de pas du côté gauche qui ont ouvert un espace à la droite de la CDU. Et là, un nouveau parti populiste et xénophobe s'y est engouffré, l'AFD. Mais de son côté, le SPD se plaint qu'on plume la volaille social-démocrate et que ses électeurs soient passés chez les Verts, plus bourgeois, mieux éduqués. Parmi les candidats à la succession de Merkel à la tête de la CDU, il y avait Friedrich Merz et Jens Spahn. Ils faisaient campagne tous les deux sur le thème du renouveau conservateur. Et c'est AKK qui a battu Merz, vous le disiez, d'une très courte tête d'ailleurs. Elle avait un message plus ambigu, disons. Elle apparaissait clairement comme l'héritière de la chancelière, en tout cas sa favorite. Et en la désignant comme présidente, le parti chrétien-démocrate a opté pour la continuité et non pas pour la rupture libérale-conservatrice qu'incarnait de son côté Merz. Alors, ce n'est pas sur le terrain économique et social, mais sur celui des sujets de société que AKK pourrait trouver des thèmes susceptibles de reconquérir cet électorat de droite qui a donc filé à l'AFD. La ministre-présidente de la Sarre est une catholique. Elle a désapprouvé la légalisation du mariage homosexuel, mais a promis qu'elle ne reviendrait pas sur cette loi votée. Sans être aussi sécuritaire que Merz, elle préconise l'expulsion des immigrés coupables de viol. Le paradoxe du très long règne Merkel, c'est qu'elle a gagné toutes les batailles électorales en dépolitisant systématiquement les scrutins, mais qu'elle laisse une scène politique allemande plus polarisée qu'elle ne l'a jamais été depuis la fondation de la République fédérale en 1949. En fait, beaucoup d'observateurs estiment que le système partisan, fondé sur l'alternance ou la coalition des deux grands Volksparteien, est mort. Le système allemand a reposé sur l'existence de trois partis, chrétiens-démocrates, libéraux, sociodémocrates. Eh bien, à l'heure actuelle, au Bundestag, vous en avez 6, voire 7, si l'on distingue la CDU, la CSU bavaroise, qui effectivement se distingue de plus en plus. Comme dans la plupart de nos pays européens démocratiques, il va donc devenir difficile de former des coalitions gouvernementales cohérentes, vu l'éclatement des forces politiques. Et nécessairement, cela affaiblira l'Allemagne.
Et que reste-t-il, Brice, de la fameuse stabilité politique allemande ?
Elle appartient peut-être bien à l'histoire ancienne. Il y a en Allemagne, estime Joschka Fischer, un sentiment de lassitude, une forme de désenchantement envers la classe politique. Ça rappelle quelque chose, hein. Mais ajoute-t-il aussitôt, il faut replacer ce phénomène dans le contexte plus général des évolutions du monde en cours. Il résume ainsi ces évolutions. Répudiation par Trump des valeurs occidentales partagées, basculement du centre de gravité économique de la planète vers l'océan Pacifique et vers la Chine, crise de l'Union européenne matérialisée par le Brexit. L'Allemagne avait conçu sa place dans le monde à une époque où toutes ces nouveautés n'existaient pas. Il lui faut donc tout repenser à nouveau frais. Un sociologue allemand, Oliver Nachtwey, dresse un sombre tableau de l'Allemagne d'aujourd'hui. La stabilité et même la monotonie associée à la vie politique allemande sous Merkel apparaît devoir se terminer, dit-il. Et son départ imminent traduit une crise du système politique allemand qui menace l'Europe tout entière. Mais la crise politique allemande, poursuit-il, traduit une crise sociale qui, elle, est beaucoup plus profonde. Malgré l'atout que constitue une monnaie dévaluée de fait par rapport à ses excédents commerciaux, la puissance de son industrie manufacturière, la croissance allemande ne cesse de faiblir depuis une décennie. Et le fameux modèle social allemand subit lui aussi une érosion. On se souvient que Ulrich Beck avait surnommé ce modèle l'effet ascenseur. Des inégalités de revenus assez importantes étaient acceptées par la population parce que tout le monde avait le sentiment justifié d'être dans un ascenseur, même si certains montaient un peu plus haut que d'autres. C'est fini. Les salaires du bas de l'échelle stagnent et ils ont même tendance ces derniers temps à baisser. Le nombre de jobs procurant la stabilité et des salaires conséquents qui étaient la norme il y a 30 ans se réduit progressivement. Les boulots précaires explosent. Ils concernent à présent près d'un tiers des travailleurs. La classe moyenne allemande est fracturée. Sa partie centrale subit un vrai mouvement de mobilité descendante et pour eux, l'ascenseur social, eh bien, il dégringole.
Voilà, il y a toujours un effet ascenseur, mais c'est un ascenseur qui descend. Merci Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve lundi prochain. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.